7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons éducation, comme chaque vendredi. Nous évoquons une situation qui concerne des milliers de personnes qui travaillent, qui possèdent des savoir-faire et qui n'ont pas le diplôme qui correspond à leur métier. Ça peut être des techniciens qui travaillent comme ingénieurs, des aides-soignants qui font office d'infirmiers. Depuis plusieurs années, de nombreux pays mettent en place la validation des acquis de l'expérience qui permet donc d'obtenir un diplôme grâce aux compétences acquises sur le tas. Alors comment décrocher ces diplômes ou ces certifications? Nous allons en discuter avec nos invités. Gérard Potvin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au Centre d'études et de recherche sur les qualifications, le CEREC. Vous êtes à Nantes, en liaison avec nous grâce aux moyens techniques de France Bleu Loire-Océan. Nous sommes aussi en ligne avec Antoine Pénaforte, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de gestion au CNAM, c'est le Centre National des Arts et Métiers, et vous pilotez la validation des acquis de l'expérience dans le domaine des ressources humaines, de la gestion, assez large hein, comme domaine. Nous allons aussi parler de la VAE en Afrique avec Mamadou Traoré, qui est directeur du Centre africain pour la validation des acquis, l'innovation et la formation. Et bien sûr, les voisins, appelez-nous si vous vous sentez, si vous éprouvez un vrai manque de reconnaissance par manque de diplôme, alors que vous êtes très compétent dans votre métier. Vous pouvez nous téléphoner dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. Dites-nous comment vous vous sentez perçu avec ce manque de diplôme et pourtant ces grandes compétences et ces grands savoir-faire. C'est aussi notre numéro de téléphone sur WhatsApp et vous pouvez aussi nous laisser des messages à l'écrit ou à l'audio. Et en fin d'émission, la chronique de Marie-Rose Moreau, parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
7 milliards de voisins.
Ouais. 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Gérard Potvin, dans un pays comme la France, 5e ou 6e économie mondiale, selon qu'on admet que l'Inde est passée devant nous ou pas, enfin, est-ce qu'on a aujourd'hui, dans un pays comme la France, un manque de diplômés en général ?
Alors en général, non. Je crois qu'il y a peut-être même surabondance de diplômés, ce qui peut générer des phénomènes de déclassement, puisqu'il y a quand même une tendance assez lourde depuis de nombreuses années à poursuivre les études, à aller le plus loin possible à la poursuite des études, considérant que cette poursuite était la meilleure protection contre le risque de chômage. Donc il n'y a pas pénurie de diplômés, mais ne pas avoir de diplôme, pour un certain nombre de personnes, ça peut être disqualifiant et ça peut être surtout disqualifiant pour se situer dans des perspectives d'évolution professionnelle, de promotion sociale, comme on disait à une certaine époque. Et donc, ne pas avoir de diplôme est un handicap. C'est pour cette raison que la VAE peut être une des voies, une des trois ou quatre voies, comme on dit aujourd'hui, d'accès au diplôme. Je rappelle que la première voie, ça reste la formation initiale. Il y a ensuite la formation...
Ou les écoles, hein.
Tout à fait, oui, à tous les niveaux. Bac professionnel, BTS, licence professionnelle. Et la formation continue, qui permet tout au long de la vie d'acquérir un certain nombre de certifications. L'alternance, hein, dont peut-être M. Pénaforte parlera mieux que moi. Et puis la VAE, qui reste la quatrième voie, relativement nouvelle. Hein,
bon, ça existe 2002. Depuis 15 ans quand même. Hein.
Voilà, oui.
Et très mal connue des Français. Ça, si on fait un interrogatoire en France, très mal connue des Français, la validation des acquis de l'expérience. Pourquoi c'est si mal connu selon vous, Antoine Pénaforte?
Bah, parce que c'est un dispositif qui va à l'encontre du système classique de formation, comme vient de le dire mon collègue. On a tendance, après le bac, à foncer, à essayer d'avoir un diplôme de l'enseignement supérieur et à ne pas directement travailler, alors qu'il y a un manque, il y a un besoin, un port de travailleurs post-bac. Et l'information est très peu communiquée, que ce soit dans les organisations ou dans les entreprises. Il faut qu'il y ait une DRH et un organisme de formation ou une responsabilité de formation qui soit suffisamment alerte et vis-à-vis de ce qui se passe à l'extérieur pour le communiquer aux salariés. Et s'il n'y a pas une sorte d'injonction, ou en tout cas d'information des organisations, les candidats ne pensent pas obligatoirement à passer par la VAE, mais vont plutôt demander un stage, des stages de formation ou des formations financées en présentiel.
Oui, c'est ça. La validation des acquis de l'expérience, c'est un droit individuel qui s'inscrit dans le code du travail, dans le code de l'éducation. Il y a combien de personnes à l'heure actuelle qui obtiennent une certification ou un diplôme avec ce système Gérard Potvin?
Oui, alors... On estime, ce sont des estimations, parce qu'une des caractéristiques en France de ce dispositif, c'est qu'il n'y a pas véritablement d'observatoire unifié, trans-ministère. Et donc on a du mal parfois à avoir des données chiffrées, mais on estime à peu près à 40 000 individus qui se présentent chaque année devant un jury, puisqu'il y a un passage quasi obligatoire devant un jury de validation, 40 000, pour 60 000 dossiers déposés. Donc il y a déjà des pertes en ligne, un peu, des abandons entre le moment où on dépose un dossier et le moment où on va passer devant un jury de validation. Et passer devant un jury de validation ne veut pas dire forcément obtenir la validation. Et on estime qu'il y a à peu près 25 000 candidats par an qui obtiennent une validation totale, c'est-à-dire la totalité de ce qui compose un diplôme ou une certification. Et donc ce qui fait à peu près 59% des candidats et 11 000 qui n'auront que des validations partielles. Alors, dernier chiffre, pour arrêter peut-être sur les chiffres, c'est les flux sur les 17 années dont vous parliez, depuis l'origine de 2002. On estime à peu près, au jour d'aujourd'hui, à 350 000. Bon, les dernières statistiques dont on dispose, c'est 2015. On était à 330 000, donc à peu près 350 000 aujourd'hui individus ont obtenu en 17 ans un titre ou une certification par la validation des acquis.
On était beaucoup plus ambitieux au début quand ça a été créé, la validation des acquis de l'expérience. Et puis bon, il y a eu l'épreuve de réalité et pas beaucoup finalement d'ambition, enfin de volonté politique pour mieux faire connaître ce système. Alors il est vrai aussi qu'il faut que les entreprises souvent soient partenaires, vous le disiez. Est-ce que la France est en retard par rapport à d'autres pays développés? Dans un pays qui a le culte du diplôme initial, finalement, est-ce que notre culture est bien adaptée pour faire reconnaître les compétences des uns et des autres tout au long de la vie? Gérard Potvin.
Oui, alors c'est une question comparaison internationale toujours un peu délicate quand on fait des comparaisons, mais en même temps ça me permet de mieux comprendre la spécificité du système français. Donc comme ça a été rappelé tout à l'heure par M. Pennafort, il y a quand même en France une prégnance du diplôme, ce qu'on appelle encore le culte du diplôme, ce qui n'est pas forcément vrai dans les autres pays européens. Et la VAE en souffre, c'est-à-dire que finalement, la VAE, c'est obtenir un diplôme. Alors certes, par d'autres voies que la formation initiale, mais ça reste quand même un diplôme. Alors qu'il y a d'autres pays qui valident des acquis beaucoup moins formels, ou qui donnent accès, par exemple, à des crédits, ou à des modules, ou à des formations, ou qui dispensent de formation. Mais il y a une appréhension beaucoup plus... des acquis dites informels et pas seulement calés nécessairement au diplôme qui reste en France une espèce de norme indépassable.
La plupart des candidats aujourd'hui en France qui veulent c'est obtenir avec ce système de validation ils veulent avec leurs compétences se faire reconnaître par exemple une licence pro ou un master. C'est après ça que courent les candidats, non, en général?
Tout à fait. Non, c'est exactement ça. Et ça peut être vu comme une spécificité française. On pourrait imaginer d'autres formes de reconnaissance des compétences acquises par le travail. La VAE, c'est reconnaître que le travail est formateur, qu'on apprend aussi en travaillant, qu'on peut acquérir des compétences. Mais reconnaître ces compétences...
Et que des compétences métiers sont égales à des compétences, enfin à des connaissances universitaires, par exemple. D'une certaine manière.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'on brouille un petit peu la hiérarchie qu'on avait l'habitude de faire entre les savoirs théoriques généraux, académiques, et puis les savoir-faire plus opérationnels. Là, il s'agit de montrer qu'on apprend par ces savoir-faire mis en œuvre dans le travail, par une combinaison d'un certain nombre de compétences mises en œuvre.
Alors, évidemment, un boulanger ne peut pas candidater pour obtenir un master, tout simplement, parce qu'il n'existe pas de master universitaire en boulangerie. Mais grosso modo, quels sont les secteurs concernés et pour quel type de diplôme, Gérard Potvin.
Alors, oui, alors très majoritairement, hein, c'est une des caractéristiques là aussi de la VAE en France, c'est que ça concerne essentiellement des diplômes plutôt de niveau CAP, BEP, Bac Pro, dans leur grande majorité, donc moins des titres d'enseignement supérieur. Et autre particularité, c'est que ce sont essentiellement les diplômes d'aide-soignante, enfin du secteur, ce qu'on appelle le secteur sanitaire et social, qui sont largement majoritaires. Hein, je crois que ça représente pratiquement la moitié des candidatures, hein, donc aide auxiliaire de vie sociale, aide-soignante, auxiliaire de puériculture, etc. Ce qui explique d'ailleurs que 73%, d'après les données qu'on a, 73-75% des validations concernent des femmes. Parce que évidemment il y a un effet de la nature du titre concerné.
La validation des acquis de l'expérience, finalement, à quoi ça peut servir dans une carrière de travailleur de faire transformer son expérience professionnelle en diplôme si on a déjà un boulot, Antoine Pennaforte ?
Alors, c'est important de rappeler que avoir un diplôme en VAE, c'est exactement la même chose que d'avoir un diplôme en formation initiale, c'est-à-dire que c'est le même diplôme. Il n'y a pas de discrimination si une personne a fait une VAE, c'est-à-dire qu'on a la délivrance exactement du même diplôme.
Donc, c'est-à-dire que sur un CV, ça ne doit pas se voir. Donc.
Ça ne se voit pas, ça ne doit pas être mentionné, il n'y a aucune raison, et d'ailleurs il n'y a aucune obligation de le dire, et il n'y a absolument pas aucune raison de le mentionner lors d'un entretien. C'est exactement le même diplôme qui a été obtenu selon une voie différente. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce qu'on pourrait avoir tendance à considérer que un diplôme obtenu en VAE est quelque chose qui est moins important qu'obtenu par
donc,
la voie.
Donc, c'est pas un diplôme au rabais, ça, on est bien d'accord. On va d'ailleurs découvrir que c'est quand même un parcours du combattant pour obtenir ces fameux diplômes ou certifications. Mais à quoi ça sert, surtout, pour un salarié qui a déjà un boulot?
L'objectif, c'est d'utiliser toutes les compétences et l'expérience acquises pour transformer ces compétences et cette expérience en diplôme, c'est-à-dire de ne pas être obligé de partir 12 mois ou 18 mois en formation initiale et de couper entre guillemets couper le lien avec l'organisation. Et donc c'est quelque chose qui permet, dans une gestion de carrière classique ou dans une gestion de carrière traditionnelle, d'obtenir un nouveau niveau de qualification et de prétendre à un poste supérieur au sein d'une organisation.
Et donc un salaire supérieur. Et c'est peut-être là où j'ai envie de vous poser la question, parce que vous nous disiez, oui, il faut que les entreprises informent bien leurs salariés sur ces possibilités-là. Est-ce que l'entreprise a vraiment intérêt à bien informer ses salariés qu'ils peuvent se diplômer tout au long de leur carrière dans l'entreprise et ensuite donc avoir d'autres types de prétentions?
D'un point de vue de compétences pures, c'est extrêmement important que les organisations diffusent au maximum l'information comme quoi les collaborateurs peuvent valider des compétences par une institution qui est seule habilitée à délivrer des diplômes ou des qualifications. Après, il n'y a aucune obligation, bien évidemment, de l'organisation à valoriser de manière associée à une reconnaissance associée à la rémunération le fait qu'un individu ait fait une VAE, sauf si cela a été réalisé conjointement avec une sorte d'accord tacite entre la direction des ressources humaines, l'individu et le souhait de parcours de l'individu et la possibilité d'avoir un poste supérieur. Donc c'est le poste, la VAE va aider à obtenir un poste supérieur, et si le poste est obtenu, à ce moment-là il y aura une rémunération qui pourra être modulée.
Gérard Potvin, ça sert aussi pour les reconversions professionnelles?
Oui, alors d'ailleurs on a remarqué que dans les années 2008-2009, une année de crise importante, il y a eu un surcroît de demandes de VAE, parce que ça peut être vécu effectivement comme une espèce de protection devant l'incertitude de l'avenir dans un contexte économique de crise, et donc protégé, là comme je le disais tout à l'heure, du risque du chômage. Donc ça peut être un facteur important dans des contextes de reconversion. Mais je voulais rebondir peut-être, si vous permettez,
oui,
sur ce qui vient d'être dit. Concernant l'implication de l'entreprise, alors, il y a d'abord une responsabilité d'information. L'entreprise a désormais l'obligation d'informer sur les dispositifs, alors le CPF dont on parle beaucoup, mais aussi l'AVE.
Le compte personnel de formation.
Le compte personnel de formation. Le CIF, congé individuel de formation, qui va disparaître, mais c'était quand même un dispositif aussi important. Et ce qu'on a pu voir dans des enquêtes récentes, c'est de plus en plus d'entreprises s'impliquer dans le processus VAE, ce qui n'était pas le cas effectivement avant, pas seulement pour des raisons d'obligation, mais parce qu'il y a vraisemblablement une possibilité d'inscrire ces dispositifs de VAE dans des parcours de formation et dans des parcours professionnels où on combine avec d'autres dispositifs, le CPF en est un, mais il y en a d'autres, de manière à garantir l'employabilité, donc un mot clé à la mode, mais qui a toute sa pertinence, l'employabilité des salariés. Et là il y a aussi une obligation de l'employeur. Oui. Je rappelle que avec la loi de 2014, les employeurs ont obligation de faire tous les 6 ans un bilan de carrière. Et dans le bilan de carrière, il faut démontrer que l'employeur a mis en œuvre des moyens d'accompagnement, de formation.
Mais ceci dit, dans le projet de loi, le nouveau projet de loi sur la réforme de la formation professionnelle, il n'y a pas grand-chose sur la validation des acquis de l'expérience. On ne peut pas dire que, pour l'instant, il y ait une volonté politique dans ce domaine.
Oui, en effet, ça a été pointé, c'est la grande absence, c'est qu'il n'y a pratiquement jamais question, en particulier dans le texte d'orientation du gouvernement, de VAE. Mais bon, ça peut être implicite dans ce qu'on appelle la sécurisation des parcours, ça participe de ce processus de sécurisation des parcours. Il ne faut pas oublier que la loi Travail d'El Khomri de 2016 avait modifié, alors peut-être à la marge, certains diront, mais modifié un peu le dispositif. Donc la question, c'est de savoir si...
Notamment, aujourd'hui... c'était plus ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément besoin de 3 ans d'expérience professionnelle candidater à une validation de son expérience par un diplôme. On pouvait se contenter d'une année d'expérience professionnelle, ce qui était évidemment ce qui est très peu sur le papier. Alors évidemment, dans la réalité, c'est quand même un parcours du combattant. D'ailleurs, ça coûte aussi de l'argent, ça peut coûter de l'argent au candidat de faire valider son expérience professionnelle par un diplôme ou par une certification. On va en discuter dans quelques instants avec vous. Lately, I've been thinking, you've seen the worst and you've seen it in me. I gave you every reason to get up and leave. I know that there's times that you get so tired, and you know I want you to stay. Ambassadors, Don't Stay chez 7 milliards de voisins. Nous sommes en direct du lundi au vendredi. Et le vendredi, en général, on parle éducation, formation. Et aujourd'hui, nous parlons de ces compétences métiers acquises sur le tas avec des candidats de plus en plus nombreux, souvent qui aimeraient faire valider leurs compétences. Mais c'est souvent le parcours du combattant. En France, on appelle ça la validation des acquis de l'expérience. Ça peut conduire à une certification, voire même à un diplôme universitaire. En Afrique aussi, les attentes seraient nombreuses, mais là aussi pas forcément de réponse. Nous sommes en ligne avec Mamadou Traoré, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du CAVEF, c'est le Centre africain pour la validation des acquis, l'innovation et la formation. Vous êtes à Ouagadougou, au Burkina Faso. Autant vous dire, Mamadou Traoré, qu'on a reçu des messages d'auditeurs qui sont intéressés par le sujet, mais qui comprennent bien que pour le moment, il n'y a pas beaucoup de dispositifs mis en place dans leurs pays respectifs. Zenio nous écrit du Togo et nous dit la VAE, on en parle très peu chez nous au Togo. Moi, j'ai eu ma licence en gestion des ressources humaines l'année dernière. Pour l'instant, je recherche un emploi. J'aimerais avoir plus d'informations sur la VAE. Alors j'aimerais que vous nous disiez au niveau du Burkina Faso déjà, où en est la validation des acquis d'expérience, sachant qu'on est bien sur un continent où près de 80% des emplois sont dans le secteur informel et où beaucoup de travailleurs se forment sur le tas, et le Burkina n'est pas une exception. Vous êtes bien comme le reste du continent là-dessus.
Effectivement, je peux affirmer sans risque de me tromper. Et la VAE est à ses débuts en Afrique, en général, et au Burkina Faso en particulier. Je ne parle pas des cellules d'évaluation des acquis professionnels qui sont les plus souvent confinées dans certaines universités, mais celles qui doivent être accessibles à la majorité des Africains qui n'ont pas la chance d'aller à l'école, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ou achever leur cursus scolaire ou académique.
Alors, le centre, le dispositif de validation des acquis de l'expérience au Burkina Faso, ça a démarré en 2013. Il y avait 50 candidats, autant dire que c'était très, très confidentiel. Aujourd'hui, vous avez à peu près 300 personnes par an qui arrivent à se diplômer. Quel genre de profil ?
Les profils sont un peu variés. Nous avons ceux qui ont des savoir-faire en informatique, c'est-à-dire qu'ils sollicitent la VAE au niveau du centre. Il y a en gestion des projets, en communication, marketing, dans les métiers tels que la mécanique générale, froid, climatisation, énergie et autres.
Oui, donc c'est très varié. Ça va de la communication marketing à la mécanique. Quel genre de profil, je veux dire, ce sont des hommes, des femmes qui sont allés jusqu'où au niveau de leur formation initiale?
Bon, pour le cas de l'Afrique, comme je l'ai dit tantôt, c'est un cas un peu, ça dit spécial. Vous savez que la majorité des Africains, ça dit, n'ont pas été à l'école. Et selon l'OCDE, la seule région de l'Afrique subsaharienne compte près de 950 millions d'habitants. Et nous avons une population africaine où environ 153 millions sont analphabètes, ne sachant ni lire ni écrire. Et vous convenez avec moi que dans les classements mondiaux, le Burkina Faso est dernier.
Oui.
Voilà, donc, compte tenu de ces réalités, généralement, c'est-à-dire les profils des gens qui nous sollicitent dans le cadre de la validation de l'expérience sont dans ces différentes catégories. Ça veut dire que c'est des gens qui sont formés dans l'État, voilà, à travers des structures informelles, celles des formations, et qui n'ont aucune certification.
Oui. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme type, par exemple, pour un menuisier qui exerce depuis de nombreuses années, qui est reconnu dans sa communauté par ses compétences métiers, par exemple, qu'est-ce qu'on peut lui proposer comme reconnaissance, comme certification ou diplôme?
Bon, puisque nous avons les certifications, c'est-à-dire qu'ils vont des CAP d'école au master. Les CAP d'école, les BP d'école et même un diplôme que nous avons mis en place qui est le diplôme des techniciens moyens, c'est-à-dire qui est pour nous, c'est-à-dire l'équivalent du baccalauréat professionnel. Voilà, généralement, c'est-à-dire c'est trois et, certifications, c'est-à-dire que nous proposons à ces catégories des candidats qui viennent au centre.
Et donc ça veut dire que on peut candidater, même si on n'est pas titulaire du baccalauréat, pour faire valider ses compétences. Je sais qu'il y a d'autres pays à l'heure actuelle qui essayent d'installer des dispositifs. Il y a le Gabon, il y a le Togo, il y a le Tchad, il y en a d'autres encore?
Oui, il y en a d'autres encore, mais je ne vais pas trop m'aventurer dans ces domaines. Mais ce que je sais, les personnes qui sollicitent la VAE proviennent, au niveau du centre CAVEF, proviennent majoritairement des pays comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon, le Togo, le Bénin, le Tchad, bien entendu le Burkina Faso et le Congo-Brazzaville. Mm.
On le voit bien, les attentes sont énormes, hein, ça c'est pas le problème. On pourrait rendre populaire sans problème la validation des acquis de l'expérience sur un continent comme l'Afrique. Encore faut-il qu'il y ait ensuite des dispositifs d'État et une volonté politique. Je vous lis le message d'un voisin malgache, Jackie, qui a posté d'Antananarivo. Il nous dit qu'il a un frère qui maîtrise parfaitement la mécanique automobile. Il n'a pas de diplôme qui correspond à ce poste. Il est autodidacte. Grâce à ses compétences, il travaille dans un garage. Et il nous demande, est-ce qu'il peut faire valider ses acquis? La VAE, dit-il, c'est encore nouveau chez nous, on a besoin d'éclaircissement. Alors, il nous pose la question parce qu'il faut dire que la VAE a été lancée en février dernier à Madagascar pour une phase d'essai de 2 ans qui concerne le bâtiment et les travaux publics. Donc, de ce que nous en savons, pour le moment, ça n'est pas ouvert à tous les métiers. Mais on voit bien quand même que les pays africains s'y intéressent, mais avec prudence et lenteur.
Effectivement, ce que j'ai indiqué au début de votre interview, que la validation des acquis est à ses débuts, voilà, presque dans tous les pays, c'est-à-dire du continent, compte tenu, voilà, de certaines réalités dont j'ai évoqué tantôt, voilà.
En tout cas, on l'a compris, ça pourrait être... Ça pourrait être une solution pour l'avenir, d'autant que les circuits d'enseignement supérieur sont saturés. Merci à vous, Mamadou Traoré, d'avoir été en ligne avec nous. Gérard Potvin et Antoine Pénafort, alors on l'a dit, pour les pays développés, vous avez cité plusieurs pays d'Europe d'ailleurs, mais en France, le dispositif existe, il est compliqué. On n'a pas encore vraiment, vous l'avez dit, alors il faut monter un dossier, il faut passer devant un jury. En réalité, ça, c'est une procédure qui prend des mois, voire 2 années, non, Antoine Pénafort?
Oui, c'est très long, mais l'étape la plus longue, c'est l'étape avant de s'inscrire en VAE. C'est-à-dire que généralement, les échecs en VAE sont dus à des candidats qui arrivent pas totalement sûrs de leur capacité ou de leur volonté à s'inscrire dans une démarche de VAE qui est une démarche de forte introspection, de forte réflexivité, qui nécessite un retour sur soi et sur son expérience extrêmement précis et une capacité à accepter de mettre en mots les compétences qui sont issues d'une expérience. Et cette mise au mot est assez difficile. Donc, une fois que le candidat a fait le chemin personnel nécessaire, il arrive devant un conseiller VAE, le conseiller VAE qui va justement vérifier de la recevabilité.
Le conseiller VAE qui est où en fait, lui? Il n'est pas dans l'entreprise, bien évidemment.
Non, alors le candidat, pour quelqu'un qui sera en entreprise, peut aller voir son responsable ressources humaines qui va l'informer. Mais sinon, spécifiquement au CNAM, on a des conseillers VAE qui sont répartis sur tout le territoire français et outre-marin pour recevoir des candidats qui souhaiteraient s'inscrire en VAE. Donc ces conseillers sont des experts pédagogiques, des experts en VAE, qui ont la capacité de vérifier la cohérence d'un dossier.
Pour tous les secteurs, tous les métiers, parce que ça peut être infini.
Tous les secteurs, tous les métiers, en tout cas, sur toutes les diplômes et les certifications qu'offre le CNAM. Et alors, pour éviter qu'un candidat soit envoyé à l'échec, il y a un aller-retour qui est fait généralement avec l'enseignant responsable de la certification ou du diplôme qui est suivi, pour s'assurer que le candidat a un CV suffisamment solide pour s'inscrire dans la démarche de VAE et pour avoir 100% de chance ou 80% de chance d'avoir une validation totale ou partielle de son dispositif de VAE.
Alors, on aimerait bien vous entendre dans quelques instants nous parler des parcours de ceux qui réussissent, des belles histoires, de ceux qui parviennent à faire valider leur expérience professionnelle par un diplôme. Vous pouvez bien sûr aussi nous appeler si vous le souhaitez pour participer ou poser vos questions au 33 1 84 22 71 71. Oh,
la réponse est simple, donne-la-moi, je l'accroche au cintre. J'atteste que tout projet prend l'eau. Quand on voit que l'affiche et son nom en gros, ah, bosse ton instrument. Et dans 20 ans, tu sauras qui c'est Vincent Segal. Écrire des lignes et des millions, choisir un argument lorsqu'un refrain s'égare. On le sirote comme de l'alcool fort, sans les jouer toutes, juste les bonnes notes que tu chaloupes. Excellence, c'est voyage dans les confins de l'excellence.
Et Oxmo Puccino, chez 7 milliards de voisins, How Many Miles? Nous parlons de la validation des acquis de l'expérience pour contourner un déficit, une marche loupée pour l'acquisition de diplômes. On parlait de la situation en Afrique il y a quelques minutes. Je vous lis le message qui vient d'être posté par un auditeur KMD qui est au Burkina Faso. Il nous dit « Le culte du diplôme crée un gros problème dans le système éducatif africain. Les diplômes n'ont pas la valeur qu'ils devraient avoir car les diplômés n'ont pas la compétence requise. L'obtention du diplôme prime sur l'acquisition de la compétence. » Ça sent le témoignage d'un chef d'entreprise, ça, à mon avis. Hein. La VAE, donc, paraît pour moi une solution pour donner plus de valeur à la compétence. On voit bien où veut en venir notre auditeur. Hein. Je pense que vous ne serez pas forcément étonné, Antoine Pénaforte, de manager qui dit sur le terrain qu'il récupère des jeunes qui ne sont pas forcément formés suffisamment concrètement par la formation initiale et que, injustement, ceux qui ont de bonnes compétences n'ont pas forcément le diplôme.
Oui, complètement. L'aspect compétence est extrêmement important parce qu'on atteste sur le terrain que l'on est en capacité dans l'action de mettre quelque chose en œuvre. Et le travail en VAE, c'est de faire le travail inverse d'une formation initiale qui va mettre entre guillemets ses prérequis théoriques dans l'action pour les transformer en compétences. Le principe de la VAE, c'est l'inverse, c'est ce que j'ai fait dans l'action, comment je peux essayer de, non pas de le théoriser, mais en tout cas de le raconter, de faire un récit de son expérience, et le récit de son expérience permettra à un dossier d'être accepté si le récit est totalement conforme et en adéquation avec le diplôme suivi.
Antoine Pennafort, une dernière question parce que je sais qu'on doit vous libérer, mais il y a des beaux parcours que vous avez croisés puisque vous avez travaillé dans des jurys de validation au CNAM. Il y a des histoires qui, malgré les difficultés pour faire valider le diplôme ou la certification, donnent de l'espoir ?
Ah, complètement. C'est un processus qui commence à être bien rodé au CNAM, la VAE. Donc les auditeurs, les candidats ont entre guillemets pas mal de chances de venir chez nous.
Vous pensez à des exemples précis de parcours à des personnes ?
Alors j'ai un exemple que j'ai géré moi-même avec un collègue où on a un candidat qui est venu pour demander une formation initiale, enfin une formation continue mais en présentiel, pour un master de 2 de gestion des ressources humaines, candidat que j'ai reçu avec un collègue, et au vu de l'expérience très importante de cette personne, nous lui avons proposé de ne pas suivre le master en présentiel, mais de faire une VAE. Et ce candidat avait une licence, une troisième année de licence, avait une quinzaine d'expériences en tant que manager de rang 2, donc manager.
15 années d'expérience.
Une quinzaine d'années d'expérience, oui, était plutôt manager, mais pas manager opérationnel, manager avec des responsabilités plutôt économiques et financières. Et donc un dossier a été monté avec des préconisations qui demandaient à ce candidat de suivre uniquement 2 unités d'enseignement sur les 12 requises et de réaliser son mémoire qui ferait, entre guillemets, office de dossier VAE. Mmh. Et le candidat, lors des jurys qui se tiennent plusieurs fois par an, a présenté son dossier de manière écrite, qui est ensuite soutenu par des enseignants lors du jury. Et ce candidat a validé...
Il a obtenu son master, donc il a obtenu son master sans être allé en cours.
De,
c'est ça,
voilà,
en 3 mois.
En 3 mois, j'exagère, en 6 mois, parce qu'il a fait son mémoire en 6 mois, ouais, au lieu de 18 mois.
Mais c'est quand même beaucoup de travail, hein, il ne faut pas le nier. Merci à vous, Antoine Pennafort, on vous laisse rejoindre votre réunion. Gérard Potvin, les parcours de gens qui réussissent, quelles sont les clés de la réussite pour faire valider son expérience en diplôme ?
Alors, c'est une question qui a plusieurs dimensions.
C'est le moment de nous donner vraiment les dernières minutes, oui, des conseils vraiment précis pour nos auditeurs.
Il y a très certainement la question de la motivation, hein, qui est une question récurrente qui se pose là. La ténacité...
Bien savoir à quoi ça va me servir, finalement, c'est ça, de se poser la question.
Oui, la ténacité, puisque vous aviez parlé de parcours du combattant, mais c'est effectivement un processus assez long, difficile, donc il faut pas abandonner. Alors, les abandons sont nombreux. Hein. Abandon... notamment, ça a été évoqué tout à l'heure, après le fameux dossier de recevabilité. Si on se rend compte qu'on a été mal orienté vers la mauvaise certification, eh bien on risque d'abandonner. Un tiers quand même des dossiers recevables n'iront pas jusqu'au bout, là, donc c'est considérable. Et puis, ne pas se décourager non plus si on n'a qu'une validation partielle. Il y a à peu près 40% des validations qui sont des validations partielles.
C'est-à-dire qu'il faudra compléter ensuite pour obtenir le diplôme avec quelques cours et quelques examens.
Voilà, donc soit on complète par les modules, les cours, les unités qui manquent.
Mais ça reste quand même très intéressant pour le candidat. C'est beaucoup moins lourd que de retourner sur les bancs de l'université ou d'une école.
Alors oui, donc les choses ont un peu changé là depuis 2 ans, puisque avant le candidat qui n'avait pas obtenu la validation totale avait 5 ans pour revenir en quelque sorte devant le jury. Là désormais, ce qui est acquis pour toute la vie. Donc on peut faire une VAE finalement sur 15 ans et engranger des modules comme ça année après année. Donc c'est un dispositif plutôt incitatif. Mais ça reste quand même, vous avez raison, un parcours du combattant, parce que c'est très long. Hein, on donne effectivement 18 mois à peu près entre le moment où on commence à chercher un organisme certificateur et puis le moment où on va sortir avec un diplôme. Donc il faut simplifier. Alors il y a plusieurs idées, hein, qui sont dans l'air du temps, hein, qu'on retrouve dans différents rapports qui ont été rendus récemment, notamment celui de Terra Nova qui est sorti il y a quelques
Libérer
semaines.
Libérer la VAE, oui.
Voilà, et puis d'autres rapports qui sont sortis en 2016. Donc simplification, ça ne veut pas dire forcément supprimer des étapes. Il y a 4-5 étapes qu'on souligne.
Il ne s'agit pas de brader des diplômes, bien évidemment.
Voilà, il ne s'agit pas forcément de réduire les étapes et de brader le diplôme, mais peut-être à la fois de mieux fluidifier le processus, hein, raccourcir les délais. Les délais restent quand même trop longs et sont souvent démobilisateurs.
Parce qu'il faut savoir que quand même dans certains établissements, si on rate le jury, qu'on n'est pas disponible parce que justement on travaille, c'est reporté à l'année suivante.
Oui, voilà. Donc il y a des années comme ça, pédagogiques, qui ne sont pas forcément en adéquation avec les temporalités du candidat. Donc il faut revoir les délais. Hein. Donc là, il y a plein de propositions qui.
Pour les chômeurs, par exemple, aujourd'hui, ils sont largement. On peut être très qualifié à être au chômage. Hein. Ils sont largement écartés quand même de ces processus. La plupart du temps, les candidats à la VAE, à la validation des acquis d'expérience, ils sont dans l'emploi, ils sont dans une entreprise.
Oui, alors on n'en a pas parlé du tout jusqu'à présent, mais les demandeurs d'emploi, évidemment, sont éligibles pour la VAE, mais on estime qu'il y a à peu près entre 15 et 20% seulement des candidats à la VAE qui sont des demandeurs d'emploi. Alors,
d'ailleurs, dans ces cas-là, ils sont exonérés des frais, hein, ils ne payent rien, je crois, dans une bonne partie des cas.
Oui. Alors pour les salariés aussi, il y a des systèmes d'aide qui peuvent exister, qui sont sans doute insuffisants.
Peut être pris sur le compte formation, sur le portefeuille formation.
Oui, tout à fait. Et puis il y a des régions, il y a beaucoup de régions, on n'a pas parlé des régions, mais qui se sont engagées, impliquées et qui donnent des abondements. C'est le cas en Bretagne, par exemple, avec les chèques VAE. Pour les demandeurs d'emploi, le risque, c'est que finalement, on a quand même une priorité au retour à l'emploi. Et donc, dès qu'il y a une opportunité d'emploi qui se présente, eh bien on abandonne la procédure de VAE en cours, ce qui évidemment est très, très dommageable pour le candidat. Et il y a la question de l'accompagnement, on ne l'a pas du tout évoqué et je voulais y revenir en deux secondes. L'accompagnement est quelque chose d'extrêmement important. Monter un dossier, M. Pennafort l'a rappelé, c'est un exercice quand même très difficile, introspectif, réflexif, il faut s'interroger sur toutes les expériences qu'on a pu conduire, ce qu'on a pu apprendre de ces expériences. C'est un travail très long qui est accompagné. Le candidat a la possibilité d'être accompagné. Mais cet accompagnement qui est souvent fractionné. Évidemment, ce qui pourrait simplifier les choses, c'est d'avoir un accompagnement global, c'est-à-dire qui parte du choix de la bonne certification, quel diplôme on veut finalement préparer par la validation, ce qui suppose implicitement de se poser la question de son propre projet professionnel, et puis ensuite être accompagné dans l'élaboration de ce fameux dossier de validation qu'on présentera devant un jury, ce qui est une autre épreuve, parce que beaucoup de candidats n'ont jamais soutenu de mémoire ou de dossier.
Notamment pour des métiers techniques, hein, c'est très difficile d'écrire sur ce que l'on sait faire soi-même quand on n'est pas dans l'écriture, qu'on n'a pas un métier autour de ça,
communication. C'est très difficile. Donc il y a des systèmes d'accompagnement qui sont envisagés et je pense qu'il y a des bonnes pistes actuellement qu'il faut pouvoir mener jusqu'au bout.
Merci à vous, Gérard Potvin, vous êtes chercheur au CEREC et vous étiez à Nantes grâce aux moyens techniques de France Bleu Loire-Océan. Merci aussi à Antoine Pennafort au CNAM et à Mamadou Traoré du Centre africain pour la validation des acquis à Ouagadougou, au Burkina Faso. Dans quelques instants, la chronique de Marie-Rose Moreau pour les parents du monde.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Nous retrouvons la chronique de Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre. Bonjour Marie-Rose.
Bonjour Emmanuel.
Vous dirigez la revue transculturelle L'Autre pour cette chronique Parents, enfants d'ici. Et d'ailleurs, on s'intéresse depuis plusieurs semaines à ces enfants qui circulent par le confiage, par l'adoption. Et cette semaine, que se passe-t-il pour les enfants qui sont adoptés, mais qui sont nés dans un autre pays que celui où ils sont nés? Alors on le dit beaucoup, l'adoption internationale ne cesse de se tarir, de moins en moins d'enfants à adopter. Néanmoins, ces enfants-là, aujourd'hui, grandissent parfois avec des apparences physiques, d'ailleurs tout à fait différentes de celles de leurs parents adoptifs. Comment grandissent-ils ?
Elles diminuent en Europe, les adoptions internationales, mais les adoptions augmentent dans les pays du Sud. Donc,
notamment en Amérique latine.
En Amérique latine, au Brésil, où j'étais, là, il y en a beaucoup. Effectivement, lorsqu'on est né dans un pays, qu'on va dans une famille d'un autre pays, parfois ça se voit, la couleur de peau, et puis les enfants savent aussi qu'ils sont de cet autre pays. Je me souviens donc de Léa qui a été adoptée au Vietnam alors qu'elle avait 9 mois. Ses parents l'ont beaucoup attendue. Ils ont été très heureux de la rencontrer. Elle a grandi avec avec un petit frère qui vient aussi du Vietnam, que les parents sont allés chercher quelques temps plus tard.
Voilà, c'est les enfants de Johnny Hallyday, quoi.
Ça pourrait. Donc, Léa a passé une enfance sans histoire et un début d'adolescence également. Mais à un moment donné, il y a eu une sorte de questionnement un peu douloureux quand même. C'était, mais pourquoi je suis beaucoup plus sombre que mes parents? Alors, je sais, je suis adoptée. Hein, elle le sait très bien, Léa. Mais cette différence de couleur de peau l'a préoccupée.
C'est ce qui pousse à rechercher ses origines, parfois, la différence physique?
Pas seulement, en fait. Je pense qu'on peut la rechercher aussi, même si on se ressemble. Mais en l'occurrence, dans l'histoire de Léa, la couleur de peau lui avait posé problème depuis longtemps, depuis l'école, en fait, même si elle ne le disait pas. Mais au début de l'adolescence, elle l'a dit à ses parents. Et pourquoi elle ne le disait pas à ses parents? Parce que ses parents, ils sont blancs, et qu'elle se disait, mais en fait, mes parents, ils ne peuvent pas m'aider, ils ne peuvent pas comprendre non plus qu'est-ce que ça fait d'être discriminée, hein, lorsqu'on n'a pas
c'est le regard de l'autre, hein, qui
voilà,
renvoie ça.
Le regard de l'autre, lorsqu'on n'a pas la même couleur que la majorité.
Ces adoptions internationales sont plus nombreuses à l'heure actuelle que les adoptions nationales pour ce qui est des enfants à l'heure actuelle adoptés. Hein.
Oui, elles sont toujours plus nombreuses. Alors, elles sont inférieures à 3000 maintenant, cette année, mais enfin, elles sont plus nombreuses que les adoptions nationales, on l'a dit tout à l'heure. Et puis, il y a plein de formes d'adoption. Il y a des adoptions plénières, simples, des adoptions coutumières, par exemple, la kefala au Maghreb, puisqu'au Maghreb, dans certains pays musulmans, on ne peut pas adopter, en fait. Le concept n'existe pas. Mais on peut quand même confier des enfants. Et en fait, les enfants peuvent aussi arriver dans un autre pays sous ce régime-là.
Comment les enfants vivent leur adoption visible?
Cette différence, qui est une différence, d'ailleurs, c'est la couleur de peau, mais ça peut être aussi, par exemple, le fait de ne pas avoir été porté par la mère, celle qui vous occupe, s'occupe de vous avec tendresse et avec souci tous les jours. Donc, il y a plein de petites différences, mais c'est aussi, par exemple, d'appartenir à un pays dont, éventuellement, on va dire du mal. Donc, vous, voilà, vous venez d'un des pays du Maghreb, et puis, vous entendez dire que il y a plein... les gens qui viennent de ces pays sont des terroristes. Et vous, vous vous retrouvez comme ça. Bien sûr, tout ça est faux, mais vous vous retrouvez prise entre des choses contradictoires. Et au fond, il faut que vous trouviez une bonne place, une place qui respecte le fait que vous venez d'un autre endroit, mais que vous grandissez ici.
Que doivent dire les parents adoptifs dans ce cas, quand il y a cette brutalité du miroir de l'autre?
La brutalité, c'est exactement ça. Premièrement, ils doivent raconter aux enfants, je crois que ça leur fait du bien en tous les cas, qu'on leur raconte ce qu'on sait, ce qui s'est passé, et qu'on leur dise aussi pourquoi on est allé dans ce pays chercher les enfants, parce que ça favorise aussi l'idée que les mondes, ils ne sont pas opposés.
Quand il y a eu de l'argent qui a circulé, par exemple, pour l'adoption, il faut le dire à l'enfant ou pas?
Question Alors là, difficile. Ça, je crois que ça concerne plus l'enfant. Parce que déjà, pour les parents, c'est une chose complexe. Je crois que là, non. Ce qu'il faut leur dire, c'est ce qui va leur permettre de trouver une bonne image de leurs différents lieux d'appartenance. Parce que vraiment, pour grandir, il faut être fier, content, heureux. Sinon, on intériorise des hiérarchies, des discriminations, des blessures.
Merci à vous, Marie-Rose Moreau. On se retrouve la semaine prochaine et on peut bien sûr vous lire dans la revue L'Autre que vous dirigez. Notamment, il y a tout un volume qui est consacré aux adoptions internationales et puis la question culturelle dans l'adoption internationale aussi. On conseille le très bon ouvrage d'Aurélie Arf. À très vite, Marie-Rose.
Au revoir.
Merci à vous tous les voisins, les voisines et merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Delphine de Dianouze, Baptiste Madinier, Romain Dubrac, Didier Cherouz. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio, à la rubrique Magazine ou nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Et on se retrouve lundi, 7 milliards de voisins, on parlera de la mode jetable, du gaspillage de vêtements. Vous savez, ces vêtements qui sont produits à bas coût, toujours moins chers, et de très faible qualité. Depuis le drame du Rana Plaza dans les usines du Bangladesh, des consommateurs s'interrogent. Faut-il s'habiller plus durable? Et bien évidemment, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71 ou également nous envoyer des messages par mail. Ça existe encore, 7 milliards@rfi.fr. Dans quelques instants, ce sera RFI Midi, en direct bien évidemment aussi.